Donc on va lire le chapitre 15, du verset 1 au verset 21. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent : Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait : Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ? Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent. Et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent et tremblent, les tremblements saisissent les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé, l'Éternel règnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël : Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. On n'aurait pas besoin d'en ajouter, mais puisque j'ai travaillé un petit peu sur ce passage, c'est un très beau passage en fait qui. Honore le Seigneur après cette merveilleuse délivrance. Moïse ne peut pas s'empêcher de faire monter ce merveilleux cantique en reconnaissance à son Dieu. Et je crois qu'on est tous appelés aussi à être reconnaissants pour ce que Dieu fait pour nous. Et je pense que ce texte nous invite à prendre reconnaissance de ce que Dieu fait pour nous. Alors, c'est le livre de Cantique de la délivrance ou de la rédemption. Dans la première section du livre de l'Exode, se termine avec le chapitre 14. Nous avons vu les fils d'Israël, esclaves en Égypte. Le libérateur nous a été présenté. Nous avons appris comment l'Éternel a délivré son peuple. Donc la deuxième section du livre, du chapitre 15 au chapitre 24, nous montre Israël devenu le peuple de Dieu par la rédemption. Délivré maintenant de l'esclavage du Pharaon, il avance dans le désert, sous la grâce d'abord, puis se place délibérément sous la loi. Le chapitre 15 comprend deux parties, le cantique de la délivrance, 1 à 21, et ensuite 22 à 27, le commencement du voyage dans le désert. Sur le rivage de la mer Rouge, traversé à pied sec, les fils d'Israël sont désormais un peuple racheté appartenant à Dieu. La mer, qui a repris sa force, les a séparés définitivement de l'Égypte. Ils peuvent alors chanter un cantique, le premier d'ailleurs que nous trouvons dans les Écritures. Le premier cantique qui nous est rapporté. C'est Moïse qui nous l'apporte. Et c'est le privilège en tant que créature rachetée d'avoir de la reconnaissance et de faire monter vers son Dieu la louange. Nous trouvons ces merveilleuses paroles dans le psaume 71, verset 23. C'est un psaume de David qui lui-même a fait cette expérience avec son Dieu. En te célébrant, dit David, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Notre Dieu nous a délivré notre âme du séjour des morts, de l'enfer. Et donc on doit être nous aussi dans cet état. David continue et dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Combien nous devrions nous aussi être reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions dans ce même état que David, il nous a fait remonter de la fosse de perdition. Ainsi Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Dans la première partie, versets 1 à 10, le cantique célèbre l'Éternel et son triomphe sur l'ennemi. Dans la seconde partie, 11 à 19, il nous est plutôt montré le peuple dans la présence de Dieu. Là est la demeure de sa sainteté, cette mise à part pour lui dès le désert. Dieu veut habiter au travers de son peuple. Dieu s'est acquis un peuple pour lui. Puis nous y voyons les ennemis dans le pays déjà vaincus. Les promesses divines que nous aussi devons nous approprier en tant que peuple de la Nouvelle Alliance. Ces promesses divines vont s'accomplir. L'héritage de Dieu et le royaume sans fin est introduit. C'est au futur, mais c'est déjà une certitude. Verset 17, « Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, le lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. » Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Cela aussi nous laisse entrevoir l'avenir glorieux que le Seigneur nous réserve à nous aussi. Le Seigneur est en train de nous préparer quelque chose de merveilleux. Donc, découvrons les versets 1 à 10. Tout au long du cantique, le nom de l'Éternel apparaît en relation avec sa gloire, en relation avec sa puissance, la délivrance accomplie, la fidélité de ses promesses et jusqu'à son règne éternel. Le sujet de l'ensemble de ce cantique et en faveur de l'Éternel lui-même et de ce qu'il a fait. Il est la force, il est le chant de louange du racheté, car le salut et le sauveur sont identifiés l'un à l'autre. Comment ne pas avoir de reconnaissance pour ce qui vient de leur arriver? Ce peuple qui était opprimé, affligé, captif, esclave d'un tyran, d'un ennemi, ce peuple connaît désormais l'Éternel comme sa force, comme sa joie, comme son salut. Voilà aussi pour nous ce que nous pouvons aussi ressentir. Nous étions nous aussi captifs, pris dans les griffes du malin. Nous avons été libérés par notre Dieu, par notre Sauveur Jésus-Christ, parce que nous avons saisi sa main. Sa main qui est toujours tendue aujourd'hui. Cette main qui, où on sent l'amour, qui appelle encore aujourd'hui. Alors, forcément, après cette délivrance, Israël peut dire « Il est mon Dieu ». Car nous avons nous aussi cette même envie de dire « Tu es mon Dieu, il est mon Dieu, celui qui m'a délivré ». Combien nous pouvons être reconnaissants. Est-ce que nos louanges sont au bord de nos lèvres, comme un feu qui brûle dans nos cœurs? Sommes-nous conscients d'où est-ce que nous réchappons? Parfois, je me pose la question. Il faut quand même revenir à la parole de Dieu pour savoir d'où nous sommes rescapés. Nous sommes des rescapés. Rescapés de l'enfer. Alors, ça devrait nous donner envie de remercier notre Dieu à longueur de journée. Israël veut maintenant demeurer en sa présence et exalter le Dieu qui a accompli pleinement ce qu'il avait promis à Abraham, le Père. Dans Genèse 15, on va retourner dans ce chapitre, montrer combien Dieu avait déjà en vue cette libération de ce peuple, cette promesse qu'il avait faite à Abraham d'avoir ce peuple pour lui, chercher ce peuple à lui. Dieu se veut un peuple à lui. Chapitre 15, verset 14 jusqu'à 21. « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré dans une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïms, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » Alors la promesse que Dieu donne à Abraham, le pays de la promesse, avec, je dirais, avec toutes les frontières. Aujourd'hui, Israël est revenu dans ce territoire, mais il n'a pas encore acquis toute cette grandeur du pays. Normalement, il devrait être encore plus large que ça. Mais le Seigneur a ramené son peuple là où il était. Mais là, on est encore dans le désert. On est loin d'être entré dans le peuple. Il y a des conquêtes à faire avant d'arriver dans ce peuple, dans ce pays de la promesse. Alors, un autre degré de reconnaissance apparaît. Le peuple, au travers de ce cantique, salue maintenant le vainqueur, l'Éternel, c'est-à-dire Jéhovah, le Dieu sauveur, le Dieu de l'Alliance. Il faut qu'on retourne au chapitre 6 de l'Exode pour avoir cette explication. Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux, sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Retour à la promesse. Et la promesse est réalisée puisque désormais ils sont sortis du pays d'Égypte. Le Seigneur les a délivrés de la main de l'ennemi. Alors le Dieu de l'Alliance est son nom. Que c'est rassurant pour nous, des êtres si fragiles, d'avoir un Dieu qui se rappelle de l'alliance qu'il a fait avec son peuple. Dieu n'oublie pas ses enfants. Même si ça paraissait, à un moment donné, on pourrait se dire, quand Moïse est arrivé dans le pays pour faire les signes et les prodiges que Dieu lui donnait de faire, le peuple était de plus en plus asservi aux Égyptiens. Mais non, Dieu était à l'œuvre. Des fois, on se dit, quand on se tourne vers le Seigneur, on subit des fois des à-coups assez difficiles à accepter. Mais non, le Seigneur est en train de nous former, de nous forger. Et forcément, il y a l'ennemi qui est toujours présent et qui cherche à nous retenir dans ses griffes. Et forcément, il y a des luttes et des souffrances. Ensuite, le cantique mentionne la puissance de l'ennemi. Les chars de Pharaon et son armée, dont les fils d'Israël eurent une grande frayeur, sont maintenant jetés dans la mer. Oui, n'oublions pas, nous non plus, chrétiens, que notre adversaire, qui est symbolisé ici par les Égyptiens, le peuple égyptien, est puissant. Ses armes sont aiguisées contre nous. Ses traits sont enflammés. Le Nouveau Testament nous explique aussi ce qu'est Satan. Pour chacun d'entre nous. Il est rusé, il est celui qui essaye de nous attirer vers lui. On a vu dans le message la semaine dernière que si l'on laisse une brèche, une toute petite brèche, l'ennemi il rentre, il élargit et il nous tient de plus en plus captifs à travers du message que le pasteur nous a apporté. Et c'est vrai, ne laissons pas le malin prendre simplement une petite part de notre vie, car si on lui donne un petit doigt, il prend le bras et ensuite il nous prend tout entier. Alors soyons vigilants. Maintenant, quelle joie pour Israël de réaliser qu'il ne verra jamais plus les Égyptiens les poursuivre. Oui, c'en est fini pour toujours du Pharaon et de son armée. Et pour nous, la mort de Jésus, celui qui avait le pouvoir de la mort, est rendu à jamais impuissant. Quelle belle illustration nous avons dans ce passage, car pour nous aussi, le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire sur la croix. Il nous a libérés de l'ennemi. Toute la gloire de la victoire est attribuée à l'Éternel. Il nous est dit, ta droite, ta majesté, tu as lâché ta colère. Combien les pensées de l'ennemi paraissent dérisoires. Ce qu'il disait, et pourtant les intentions étaient ambitieuses. Atteindre le peuple, partager le butin, exterminer, mais l'ennemi est vaincu. Tout a été anéanti par le souffle de l'Éternel. Les eaux magnifiques ont annulé ses desseins moribonds. Je le répète, c'est aussi ce que notre Seigneur Jésus a fait sur la croix. Il a anéanti le pouvoir de la mort. Nous lisons dans Colossiens, on va lire ce passage, Colossiens 2, verset 15, verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il a dépouillé les dominations en les livrant publiquement en se donnant sur la croix. Il n'y a plus, le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous. Nous sommes délivrés une fois pour toutes. Il y a donc là un message prophétique pour l'avenir aussi, car ce que fera le Seigneur, c'est ce que fera le Seigneur Jésus en son jour, lorsqu'il consumera l'homme inique. Parce que même si Satan est vaincu, il reste capable aujourd'hui de s'accaparer d'hommes, malheureusement, et s'en servir pour faire souffrir le monde. Et c'est ce qu'il fera à la fin des temps, s'incarnant dans un homme, malheureusement, qui s'appelle l'Antichrist, qui va essayer de remplacer en fait le Christ, se disant lui-même le Christ. Et ce sera forcément très troublant pour la chrétienté de l'époque. Et ça sera aussi beaucoup de souffrance parce que cet homme sera vraiment contre Dieu. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens ce passage qui nous rappelle cet homme inique. 2 Thessaloniciens 2, 2, 3 à 8. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà, donc le monde n'a pas fini de souffrir, surtout le monde christianisé, mais malheureusement aussi le monde aussi sans Dieu, mais parce que le diable est toujours à l'œuvre dans ce monde, et malheureusement il va aller grandissant. L'Éternel a combattu tandis qu'Israël demeurait tranquille. N'est-ce pas là une merveilleuse promesse pour nous aussi, aujourd'hui? Nous n'avons pas besoin de nous défendre nous-mêmes. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Nous devons simplement nous tenir là à part pour lui et rester fidèles jusqu'à la fin. Nous avons la tendance à nous agiter quand les choses ne vont pas, à piétiner. Mais ce n'est pas une bonne solution. Nous devons plutôt nous attendre au Seigneur et la délivrance va venir. Il l'a montré maintes et maintes fois. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, on a cette faiblesse. Sachons dépendre sur Dieu. Alors, dès le début de ce livre, nous avons vu l'impuissance du peuple et sa faiblesse. Cela reste toujours vrai pour nous aussi aujourd'hui. Cela est très bien imagé ici. Et on voit bien que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Nous sommes toujours dépendants du Seigneur. Qu'il est bon pour nous de savoir que notre salut repose sur notre grand Dieu et de pouvoir dire comme Jérémie dans les Lamentations, chapitre 3, versets 5 et 8, « Seigneur, tu as pris en main la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. » Jérémie, pourtant, qui était un homme qui a souffert, un homme de Dieu, très engagé lui aussi, on l'a étudié ce livre dernièrement et on a vu combien il a pu souffrir à cause de ses frères en plus. C'est terrible, de son peuple. C'est terrible de souffrir à cause de personnes qui se disent appartenir à Dieu. Et c'est terrible. Donc il sait dire ces choses, il a dû dépendre de son Dieu. « Seigneur, tu as pris en main la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. » Et je pense qu'on peut aussi, dans les moments difficiles, dire, difficile ou pas difficile, se dire les mêmes choses que Jérémie. « Tu as pris la cause de mon âme. » Alors maintenant, les versets 11 à 19. Le verset 11 est à la fois la conclusion et la première partie du cantique et l'introduction de la seconde. L'Éternel y est exalté dans sa gloire et dans sa puissance pour ce qu'il a accompli et pour ce qu'il fera encore. Qui est comme toi ? Vincent l'a mentionné tout à l'heure dans la présidence. Et c'est vrai que ce verset est un verset clé dans ce passage. Qui est comme toi, Éternel ? Qui est comme toi ? Nous n'avons rien trouvé dans ce monde qui peut être semblable à Dieu. Rien. L'Éternel seul est le Rédempteur. À la fin du voyage à travers le désert, Moïse répond en quelque sorte à cette question. Nul n'est comme le Dieu de Jeshurum, qui, porté sur les cieux à ton secours et sur les nuées dans sa majesté. Alors, il faut voir dans le Deutéronome 33, verset 26, et encore pas dans toutes les traductions, pour trouver le mot Jeshurum. Ce nom signifie celui qui est droit, celui qui est juste. Et appliqué à Israël, il le désigne comme le peuple justifié par Dieu. Le peuple juste. Jeshurum, ça veut dire juste, enfin, justifié. C'est Dieu a justifié ce peuple, a rendu juste ce peuple. Donc nous pouvons, nous aussi, nous l'approprier sous la base de notre salut en Christ, par la foi. Nous sommes rendus justes en Christ. Et nous sommes rendus saints en Christ. Nous ne devrions pas avoir honte de dire « Je suis un saint » ou « Je suis juste ». Je suis au moins justifié. Dieu a justifié un peuple pour lui. A rendu juste. Ce n'est pas rien de savoir que Dieu nous a justifiés. Ce grand Dieu de l'univers a pris un tel soin pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Et il cherche encore quelqu'un dans ce monde qui voudrait bien rentrer et rentrer dans cette justice qu'il a préparée. Après, à partir du verset 13, nous avons déjà dans le cœur des rachetés la reconnaissance de cette bénédiction future, la terre promise. Israël reconnaît d'abord que l'Éternel l'a conduit par sa bonté. Israël sait reconnaître la bonté de Dieu. Israël, après avoir souffert tant d'années en captivité dans ce pays d'Égypte, ce peuple a passé plus de 430 ans, je crois, dans le pays d'Égypte, captif, forcément, de génération en génération, les souffrances étaient de plus en plus importantes. Du temps de Joseph, tout se passait bien, mais il est passé des hommes qui sont devenus très durs, indifférents à Dieu, et donc de plus en plus d'esclavage. Alors, il peut dire par sa bonté, Dieu les a délivrés. Dieu se révèle ainsi à ceux qu'il sauve et qu'il amène en sa présence. Sommes-nous touchés par ce trait de caractère, du caractère de Dieu, nous aussi, au point que nos cœurs sont attirés à lui? Sommes-nous touchés par l'amour de Dieu, au point que nos cœurs sont attirés à lui? Nous avons comme exemple de caractère à pratiquer le passage de 1 Pierre 2,15. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. Je ne pense pas que cela. Ça, c'est pour la fin. Ça sera juste avant. Ça, c'est un verset que j'ai gardé pour la fin. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Voilà notre marche avec Dieu, pratiquer le bien. Et en pratiquant le bien, on peut réduire au silence les mauvaises langues, pourrions dire. Comme Israël, nous sommes un peuple racheté, nous devrions dégager cette bonté de Dieu au travers de nos vies. Et du même coup, nous devrions aussi aspirer à le louer constamment. Oui, Israël est un peuple racheté. L'Éternel le guide par sa force et à bras étendus, car sa bonté demeure à toujours. Dieu veut mettre à part ce peuple, à l'écart de l'Égypte. Là, il peut établir sa sainteté et même la demeure de sa sainteté. Le futur tabernacle dans le désert remplit la gloire de l'Éternel, au chapitre 40, versets 34 à 35, en est la représentation. Nous sommes nous-mêmes aujourd'hui cette maison spirituelle où la gloire de Dieu veut se manifester. Le but final que Dieu a en projet est d'introduire son peuple et de l'établir fermement et le planter sur la montagne de son héritage. Le désert précède l'héritage dans ses voies, mais dans le futur pays, les ennemis sont déjà saisis de crainte. C'est ce que Rahab confirmera aux espions envoyés par Josué à Jéricho. Nous lisons ce passage en Josué 2, 9 à 10. « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Le peuple de l'Éternel est sa portion. Jacob est le lot de son héritage. Dieu a une portion à lui. Dieu a un héritage à lui. Son peuple est son cadeau. Nous sommes le cadeau de Dieu. Imaginez. Nous sommes un cadeau pour Dieu. Les voies de Dieu envers son peuple ont pour but de le placer dans le lieu qu'il a préparé pour le sanctuaire, où il demeurera au milieu de son peuple. Je ne sais pas si on se rend compte le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Dieu habitera au milieu de nous. Il sera notre roi. Nous serons ses enfants. Nous sommes déjà, mais quand nous serons auprès de lui, ce sera encore quelque chose de plus extraordinaire. On ne peut pas l'imaginer. On s'en fait une idée parce qu'on a quelques passages dans l'Apocalypse qui nous disent cette nouvelle Jérusalem, cette merveilleuse ville pavée d'or. Ça, on ne peut pas le comprendre en tant qu'humain, mais ça nous donne une certaine idée quand même de ce que Dieu nous a préparé. Mais déjà là, il veut dévoiler déjà à ce peuple, tout doucement, ce que sera l'avenir, parce qu'il va commencer par le temple de Jérusalem, qui était donc en vue dans sa première gloire, et puis il annonce sa dernière gloire, que l'on verra dans peut-être peu de temps, puisque le Seigneur va revenir bientôt. On ne sait pas quand, mais il va revenir. Les signes pour nous qui sont évidents, c'est que Israël a repris sa place dans sa patrie. Ça nous donne une idée que le Seigneur devrait revenir. On est dans les temps où le Seigneur pourrait revenir. Donc, préparons-nous à cet événement. Le Seigneur revient. Mais le Seigneur va à nouveau ébranler la terre. Lorsqu'il aura encore une fois ébranlé les cieux et la terre et toutes les nations, âgées 2, 3, 6 à 9. Ce passage annonce, bien sûr, est un passage prophétique qui annonce le règne glorieux du Christ à la fin des temps, le résultat de la victoire divine rappelée en conclusion. Le Seigneur aura le dernier mot. Un jour, il viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers et Israël sera dans une mauvaise situation ce jour-là. Le monde sera dans une mauvaise situation ce jour-là, mais le Seigneur viendra libérer Israël et le monde de ces moments difficiles qui sont à venir et qui sont des temps très durs. Le verset 20 à 21, la louange de Marie et des femmes d'Israël exprime simplement la joie d'un peuple délivré de tous ses ennemis. Alors voilà, bientôt, là-haut, nous chanterons notre délivrance pour l'éternité. Mais déjà, nous ressentons par la foi les prémices de cet avenir glorieux qui est réservé à ceux qui le craignent. Alors que dire de ce passage? Que pourrions-nous retirer de ce passage? Eh bien, sachant que notre délivrance est assurée, Jésus a payé le prix. Nous pouvons dire comme David, « Tu m'as guéri. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. » Sachons reconnaître qu'en Dieu seul est notre force et notre salut. Tu as pris en main la cause de mon âme, tu as racheté ma vie, dira Jérémie. Et on peut s'associer à Jérémie. On peut s'associer dans ses paroles aussi. Sachons aussi reconnaître que personne ne surpasse notre Dieu. Qui est comme toi, ô Éternel ? Qui est comme toi ? Alors que nos louanges soient comme un feu qui soit au bord de nos lèvres, que nous sachions louer notre Dieu, que nous sachions le remercier pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il est pour nous. Enfin, sachons placer Dieu au centre de notre vie, de notre préoccupation, car nous sommes le peuple choisi, nous sommes devenus la maison spirituelle de Dieu, la demeure de sa sainteté. Par l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. Le temple de Dieu. La tente de Dieu. Nous sommes des tentes, comme disait l'apôtre Paul. Jésus avait dit, détruisez ce temple, le temple de Jérusalem, et moi, en 3 jours, je le relèverai. Et il parlait de son corps qui serait ressuscité 3 jours plus tard. Alors je vais vous lire le passage que je voulais vous lire pour terminer, dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Voilà, je conclue là-dessus, sur ces versets-là. Je trouve qu'ils sont assez riche pour nous aider à savoir que nous avons un privilège très particulier. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Nous sommes devenus le lieu où Dieu veut habiter, la sainteté de Dieu. Et ça m'a posé une question. Suis-je vraiment digne de que Dieu vive en moi. Et ça doit me travailler tous les jours à chercher la sainteté, à corriger toujours ma vie et à devenir semblable à Christ. Et c'est lui qui le fait en moi, mais le Saint-Esprit travaille et qu'il travaille dans nos vies aussi. Merci.